Morning Edition from NPR News.
Merci, Team San Bilberhausen.
France Inter, le 18-20.
Imaginez une nation pirate de réfugiés climatiques refusant le puçage généralisé de la population. Imaginez des implants neuronaux dans le cerveau des militaires hackés par une puissance ennemie. Imaginez un monde prisonnier du virtuel et des armes hyper véloces. Tous ces scénarios nés dans la tête d'auteurs de science-fiction servent aux militaires dans la vraie vie pour imaginer les menaces de demain et les guerres à venir. Ils sont réunis dans un livre aussi fascinant que glaçant qu'on va découvrir ensemble. Le bruit du monde est au Kazakhstan ce soir. Nous vous emmenons là dans une vraie guerre grâce à Thibault Lefèvre, aux racines de la poussée de colère de ces dernières semaines, pas tout à fait la guerre encore, qui a fait plus de 200 morts et des centaines d'arrestations. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé des stagiaires étrangers maltraités au Japon, un Colombien arrêté pour trafic de stupéfiants sous l'eau et Fight Club de David Fincher, enfin visible en Chine, mais il en manque des morceaux. 18h50, c'est le cinéma en VO avec tous les morceaux de Nos âmes d'enfants de Mike Mills. Vous y verrez Joachim Phoenix en reporter radio interrogé des 9-12 ans. Et puis 18h55, c'est Le monde d'après de Jean-Marc Four, ou comment le Danemark et l'Autriche sont en train d'inverser la vapeur sur le Covid et tout lâcher. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Emmanuel Kiva.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de la défense et initiateur du projet Reptim dont on va parler dans un tout petit instant. Romain Lucaso, bonsoir aussi. Vous êtes auteur de science-fiction et vous êtes co-auteur de ce livre que j'ai entre les mains, signé de la Reptim, donc, qui s'appelle Ces guerres qui nous attendent, 2030-2060, publié chez Équateur. Pour résumer rapidement ce qu'on a là entre les mains, Emmanuel Kiva, vous avez demandé à des auteurs de science-fiction, à des scénaristes, à des auteurs de BD, de vous défier, de défier les militaires, en inventant des histoires, en inventant des scénarios pour les guerres du futur. Est-ce que c'est comme ça que c'est né, la Red Team ?
Alors, c'est comme ça que c'est né, c'est surtout parce que j'ai une femme qui est fan de science-fiction, qui m'a emmené dans un festival qui s'appelle Les Utopiales, que Romain connaît bien, et j'ai pu voir toute la créativité de cette population. C'était de la science-fiction avec de la science dedans. Et là, je me suis dit, finalement, tout ceci pourrait nous aider à penser hors du cadre. C'était avant la création, par la ministre des Armées, Florence Parly, de l'Agence de l'innovation de défense. Mmh. Et quand l'agence a été créée, eh bien, on s'est dit, c'est le moment de mettre ce projet en exécution.
Ça veut dire que la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires, en fait.
Ah, les classiques. Non, c'est surtout le fait de dire que les militaires, ils ont une certaine manière de penser, qui est très adaptée lorsque l'on se projette en 10, 20, 30 ans. Mais qu'est-ce que ça sera, l'art de la guerre en 2060? Est-ce qu'on peut anticiper les menaces? Et ça nécessite de se détacher de la manière traditionnelle qu'on a de faire de la prospective et d'adopter une approche complémentaire. Mais c'est ça qu'on a cherché.
Mais avant de plonger dans les scénarios, et notamment dans les vôtres, Romain Lucaso, pour inventer, il faut partir du réel quand même. Qu'est-ce que vous leur avez donné à voir? Quelle est leur base de travail, en fait?
Alors, nous avons...
Pardon, je vais reformuler. Qu'est-ce que vous avez le droit de me dire que vous leur avez donné à voir?
Sinon, vous ne sortirez pas de ce studio. Justement, c'était très important pour nous, d'abord, de ne pas être complètement hors sol. Donc, ça ne nous intéresse pas de faire la téléportation et le voyage dans le temps. Mais, en revanche, de pouvoir leur donner à voir des choses que nos citoyens ne voient pas, parce que c'est la vérité des prix. Et donc, on a été très attentifs d'abord à la sélection de notre équipe, qui, comme vous allez le voir, est composée à la fois de scénaristes, de dessinateurs, d'auteurs, de science-fiction, de polar.
Très attentifs, parce qu'ils étaient combien? 600 sur la ligne de départ?
Alors, ils étaient 1200, dont 600 exploitables.
Ah, bah dites-moi.
Et donc, 600 candidatures de valeur, et donc cette équipe d'une dizaine d'auteurs, dessinateurs, designers, qui travaillent ensemble, ça aussi c'est une originalité, et qui sont habilités. Ils sont habilités secret défense, et ça nous permet de les emmener, et notre équipe a pu voir ce que c'était qu'un sous-marin nucléaire, ce que c'était qu'un combat aérien, ce que c'était qu'un combat de blindés, qu'est-ce qu'il y avait dans les sous-sols de certains bâtiments français, ce qui nous permet de ne pas partir de rien.
Mais est-ce qu'il y a une base de vérité, même dans les choses les plus incroyables? Par exemple, dans le premier de votre scénario, Romain Lucaso, on est sur un ascenseur spatial de 40 000 km de la Terre jusque dans l'espace pour aller chercher des ressources notamment. Est-ce que ça part complètement de votre imagination, ou est-ce qu'il y a une base de quelque chose qui vous dit on est peut-être en train d'inventer quelque chose qui ressemble à ça?
Alors, tout est strictement dans la zone du possible.
D'accord.
C'est-à-dire que notre approche, c'est pas une approche de prospective. On se contente pas de tirer les fils du présent vers le futur. Ça, c'est ce que font les prospectivistes ou les gens qui font de l'anticipation. Nous, on fait vraiment de la science-fiction, donc on a le droit de se positionner aux limites extrêmes de ce qui est envisageable. Dans l'exemple que vous citez, Faire démarrer la construction d'un ascenseur spatial à horizon 2040-2060, c'est envisageable parce qu'un certain nombre de travaux existent aujourd'hui sur la physique des matériaux, le type de matériaux à mobiliser et les technologies sous-jacentes pour construire à horizon beaucoup plus lointain ce que serait un ascenseur spatial. Donc on est toujours, et c'est une des règles imposées, et c'est pour ça que c'est de la science-fiction et que c'est pas, y a pas de magie, y a pas de zombies, y a pas d'invasion d'extraterrestres.
C'est ça qui est terrible d'ailleurs.
Voilà, je milite beaucoup pour les extraterrestres, mais ils veulent pas.
D'accord.
Pas encore.
Mais en tout cas, tous les scénarios se positionnent dans ce qu'on appelle un cône de vraisemblance, c'est-à-dire, alors souvent aux limites extrêmes de ce qui est possible techniquement, mais en tout cas, on respecte toujours le cadre qui est celui de la science, qui est celui de l'évolution possible des technologies, et on joue avec cette contrainte-là, qui est la contrainte du réel.
Alors, dans votre scénario numéro 1, notamment, ça commence donc avec cet ascenseur spatial qui est à Kourou, qui sert à transporter des hommes et du matériel, une espèce de fil qui fait 40 000 km de hauteur. Cette base est attaquée par des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la P-Nation, ou la P-Nation, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, ce sont des pirates, des renégats qui refusent ce qui est le lot désormais de l'humanité, c'est-à-dire d'être pucés, puisque beaucoup de choses ont été explosées par le réchauffement climatique, la montée des eaux, les paniques de migration, etc. Au fond, en vous lisant, Romain Lucasseau, je me suis dit, il parle aussi de nos peurs et de ses propres peurs, en fait. Et ce qu'il a vu dans les tréfonds de l'armée lui a fait peur, et c'est aussi ça qui nous amène.
Alors, moi, ça va très bien. Hein, je trouve bien. La science-fiction, en effet, c'est une matière qui travaille souvent sur la base de peur. Et le cadrage qu'on nous a donné, qu'on assume complètement, c'est bien de créer des menaces qui visent à faire peur. Et en fait, ce qui fait peur, en tout cas ce qu'on essaye de faire pour faire peur à nos interlocuteurs militaires, c'est bien de construire des types d'adversaires qui ne sont pas ceux auxquels on penserait spontanément dans la planification ou dans les exercices de projection classiques, ceux qu'on fait de façon rationnelle avec des experts qui regardent le monde d'aujourd'hui et qui se disent, sur la base du monde d'aujourd'hui, de signaux faibles, des analyses géopolitiques qu'on peut faire, voilà ce que ça pourrait être dans 20 ans. Donc on se place un peu plus loin, on ouvre l'éventail des possibles, et donc dans le cas d'espèce qui nous intéresse, finalement, que le réchauffement climatique va avoir lieu, tout le monde le sait. C'est devenu une évidence scientifique, et donc ça fait partie de la planification. Que le réchauffement climatique ait des effets de création de nouvelles entités géopolitiques qui fonctionnent selon des règles, des modes de fonctionnement, des systèmes politiques, voire qui constituent des peuples avec des cultures complètement nouvelles, ça relève de la science-fiction. Et ça nous semble être dans le cône des possibles.
Et c'est intéressant parce je vais rien révéler, mais un petit peu quand même, il gagne à la fin, vos renégats, et ça aussi, enfin plus ou moins, on va dire. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant dans la manière de voir. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça, vous, Emmanuel Kiva? Est-ce que ça veut dire, par exemple, je pense au puçage, parce que tout le monde est pucé dans ce scénario-là, et en effet, ça existe, ça. Ou en tout cas, on est à deux doigts, en fait. Est-ce que ça veut dire que si demain, un responsable politique vient en vous disant, on a inventé ça, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez ressortir le scénario de Romain en disant voilà ce que ça peut aussi donner? Est-ce que ça sert à ça? Comment votre mécanique fonctionne après?
Alors, il faut bien comprendre pourquoi on utilise des auteurs de science-fiction. Utiliser est un terme où on collabore avec des auteurs de science-fiction. On collabore avec eux parce qu'ils nous permettent d'envisager justement ce qu'on ne veut pas. Envisager un modèle de société qui est générateur d'un certain nombre de menaces. On n'utilise pas cette approche-là pour imaginer le char du futur ou le sabre laser. Ça nous intéresse pas. Et c'est justement dans cette approche-là que si un scénario a les effets que vous décrivez, à savoir faire peur, mettre en avant une menace qu'on n'aurait pas détectée auparavant, on va pouvoir l'utiliser. Et la manière dont on l'utilise, c'est qu'on constitue, nous, en interne, un dossier de menace. Il faut bien comprendre qu'en face de la Red Team, on a une Blue Team. On a des officiers, on a des ingénieurs de l'armement, on a des prospectivistes de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Donc des gens qui n'ont pas l'habitude de penser de cette manière-là et qui doivent, eux, trouver la riposte. Et donc, le but, c'est justement de se préparer à un avenir qu'on ne souhaite pas du tout, mais auquel il convient de se confronter néanmoins.
Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et on voit bien comment vous, jusqu'à quel point vous travaillez ensemble, et au fond, où sont les centres d'intérêt, les obsessions ou les envies, je sais pas comment il faut appeler ça, mais on a tous ces gens qui sont pucés dans le scénario numéro 1, on a des traçages qui peuvent aller même encore plus loin, on a les fameuses puces neuronales qui sont très impressionnantes, qui sont implantées dans les cerveaux et qu'on peut hacker. Donc il y a cette espèce de ces bulles virtuelles qui sont créées, tout ce qui tourne tourne, on voit bien que tous les scénarios tournent autour de cette cyberguerre, ce lien en tout cas avec les technologies, voire neurotechnologies. Là-dessus, c'est un peu comme un fil rouge dans chacun des scénarios.
Alors, il y a quand même des exceptions. Il y a des scénarios, notamment un scénario sur l'hypervélocité qui s'occupe pas de ces dimensions cognitives.
Absolument. J'allais vous demander si vous l'aviez complètement inventé, le missile hypervéloce.
Ah, pas du tout.
Ok. Il existe donc.
Alors, l'hypervélocité, c'est la combinaison d'aller à des vitesses hypersoniques, au-delà de Mach 5, et d'être manœuvrable. Ouais. Eh bien, nous avons un programme, les grandes armées ont des programmes pour l'hypervélocité, pour des vecteurs hypervéloces. Donc, ça n'est pas de la science-fiction. Mmh. C'est quelque chose qui est en train d'être développé.
Pardon, je vous ai interrompu.
Non, pas du tout. Ce qui relève un plus de la science-fiction dans ce scénario, c'est qu'on s'est dit, si on croise deux tendances technologiques qui sont aujourd'hui avérées, qui sont pas dans la limite du cône de vraisemblance, quoi. C'est des choses qui vont arriver, qui sont l'hypervélocité d'une part et le développement des drones d'autre part, dont on voit les fabuleuses possibilités. Est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver dans une situation où on change complètement les règles de la guerre par rapport à tout ce qu'on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale? Depuis la Seconde Guerre mondiale, le paradigme, si vous voulez, la règle fondamentale de la guerre, c'est la guerre de mouvement. Et donc, on construit un scénario où on montre qu'un des effets de ces technologies, c'est possiblement de se retrouver avec des formes de guerre qui ressemblent paradoxalement à ce qu'était la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des guerres de position.
Ouais,
et donc c'est ça qu'on a exploré. Voilà. Et donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il y a beaucoup de cyber dans nos scénarios, mais parce que c'est une des grandes évolutions technologiques de notre temps et que ça va avoir des effets. Et nous, justement, on explore les effets au-delà de la simple dimension techno-scientifique. On explore les effets sociétaux, on explore les effets anthropologiques. Et donc on essaye de construire des scénarios comme ça, mais on s'interdit pas de regarder des choses qui sont beaucoup plus techniques aussi.
Et ce qui m'a fasciné, c'est dans le scénario numéro 3, je crois, c'est ces espèces de réalités alternatives qui ont été créées en fait dans des espèces de bulles, des espèces de sphères. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que désormais la tâche de l'armée, c'est de sécuriser le réel, d'essayer de rendre le réel, parce qu'on est tous prisonniers du virtuel. Et en même temps que je lisais ça, je pensais au métaverse de Zuckerberg, par exemple. Mais j'avais l'impression de l'avoir en face des yeux réellement.
Et ce scénario aussi, a été écrit avant l'annonce par Mark Zuckerberg du métaverse, ce qui montre bien qu'on ne part pas de rien et qu'effectivement on s'ancre dans un cours. C'est effectivement, je pense, l'un des scénarios les plus marquants que nos auteurs aient réalisé.
Parce qu'ils nous parlent tellement déjà.
Voilà, on parle de balkanisation du réel. Chacun a son propre réel. Il n'y a plus de réalité partagée. Et donc, partant, ça nous donne un certain nombre d'effets, dont des effets extrêmement préoccupants dès lors qu'on veut organiser, par exemple, une opération d'exfiltration de ressortissants.
Romain Lucaso, parce que les informations ne passent pas, d'ailleurs. Parce c'est ça qui est vraiment intéressant. Les infos réelles ne passent plus. Est-ce que vous avez, Romain Lucaso, est-ce que vous avez écrit des choses qui n'ont pas été publiées parce que vous allez trop loin? Est-ce que parfois on vous dit non, vous allez trop loin? Pas seulement sur les extraterrestres d'ailleurs.
Alors, on nous interdit pas d'écrire des choses, donc il n'y a rien dont on m'ait dit vous ne l'écrivez pas parce que vous allez trop loin. Il y a des éléments, et souvent en termes d'approfondissement des scénarios, qu'on ne publie pas. Notamment quand il y a un lien avec des éléments de détail, en effet, qui relèvent de ce que nous on a pu percevoir de la réalité opérationnelle, du mode de fonctionnement des armées. Donc il y a des éléments ou des dimensions des scénarios, en effet, qui sont coupés. Puis il y a aussi des éléments, les scénarios non publics parfois sont peut-être plus explicites sur ce qu'est la menace, etc. Et donc on les publie pas pour des raisons de politesse diplomatique, j'imagine.
Quoi. On pourrait lire à travers certains scénarios, Emmanuel Kiva, est-ce que c'est vous qui avez servi de comité de censure, pardon de le dire comme ça?
Alors justement, on essaye de pas censurer, c'est-à-dire que les auteurs ont une liberté de création.
Mais quand on peut lire, quand c'est trop transparent, qu'on peut lire au travers,
mais
en fait.
En revanche, les scénarios sont d'abord classifiés. C'est-à-dire qu'en ce moment, les sujets même d'ailleurs des scénarios sont classifiés, secret défense. C'est la ministre des Armées qui décide à l'issue de la remise des scénarios, quelles parties on déclassifie et quelles parties on garde pour nous. Et les raisons sont doubles. Effectivement, de pas vouloir, par exemple, exposer des domaines d'intérêt, voire des vulnérabilités, mais également ne pas inspirer nos adversaires avec des modes d'action qu'ils n'auraient pas imaginés.
Mais d'ailleurs, les Américains ont aussi eu une red team à l'époque de Reagan et rien n'a été publié
vraiment.
Apparemment. C'était pas la même chose
Non, c'était pas la même chose. Les Américains ont utilisé effectivement la collaboration avec un auteur de science-fiction à chaque fois pour essayer d'imaginer, de faire un peu de prospective. Mais c'est pas du tout la même mécanique et ça n'est pas la même manière de travailler. Et en particulier, il n'y a pas de notion d'équipe et de notion de travail en groupe. Je pense que Romain peut témoigner que c'est un exercice très particulier quand on est auteur.
Ouais, il y a une autre dimension très différente des Américains. Ce qu'ont demandé les Américains à chaque fois, c'est l'écriture de rapports. Mm-hmm. Et nous, on fait pas des rapports. Mm-hmm. C'est une vraie particularité je souligne. On écrit des récits. Mm-hmm. Et donc, à quoi ça sert un récit? Ça sert à vous immerger en tant que lecteur dans une réalité future ou alternative et à vous le faire vivre comme je regardais une série, c'est pas pareil que de lire un livre quoi, de lire un livre de non-fiction. Voilà. Et donc ce qu'on essaye aussi de faire, c'est donner effectivement une sorte d'expérience de pensée au moins à nos lecteurs et notamment à nos lecteurs militaires, leur faire jouer les scénarios et donc il y a une dimension un peu plus, je me permets l'expression, un peu plus existentielle que ce qu'on peut faire quand on va simplement écrire un rapport, enfin des rapports il y en a des tas, voilà, on les lit pour s'endormir.
Puis c'est pas votre métier d'écrire des rapports et puis quel dommage de vous faire écrire des rapports pour le coup. Est-ce que vous avez une petite pointe de frustration parce qu'il y a des choses qui ne sont pas publiables? Au fond c'est quand même assez inédit pour un auteur d'écrire pour un public extrêmement ciblé qui ne fera pas sortir la totalité de ce que vous écrivez. Vous avez cette petite frustration? Alors, pas du tout.
Absolument pas. D'ailleurs, c'est nous qui proposons les versions publiques.
D'accord.
Il n'y a jamais eu de frottement.
Ok.
Donc non, il n'y a pas vraiment de frustration de ce côté-là.
Et est-ce que vous avez le droit d'utiliser dans vos prochains romans, romans, est-ce que vous vous dites ça, peut-être que ce fil-là, je vais pouvoir le tirer, personne ne s'en rendra compte sauf moi, mais je peux utiliser ça, ou est-ce que vous vous fixez comme règle de faire abstraction de tout ce qu'on vous a montré, de tout ce que vous avez vu?
Alors moi, mes romans, ça se passe dans 3-4 000 ans plutôt.
C'est vrai, mais donc, néanmoins,
Du coup, il y a peu de frottement.
Okay.
Mais il n'y a pas de règle là-dessus. Explicite. La question se posera pas sans doute pour moi, sauf si je décide d'écrire du thriller, du techno-thriller, et dans ce cas-là, je demanderai poliment l'autorisation à l'armée pour exploiter quelques thèmes.
Vous allez faire tourner les auteurs, Emmanuel Kiva, comment ça se passe suite? Parce que moi, je voudrais le tome 2.
C'est une expérimentation. Il faut bien comprendre que là, c'est une expérimentation, et on va voir s'il y a lieu de la pérenniser et sous quelle forme. Donc, on ne s'interdit pas, effectivement, en lien avec les auteurs et avec le chef de projet, de faire évoluer l'équipe. Red Team. Pour l'instant, on a une équipe qui est relativement stabilisée. Il y aura sans doute quelques petits ajustements. Vous aurez un tome 2.
Ah ben, avec grand plaisir, en tout cas, parce que ça fait vraiment flipper, mais c'est fascinant, c'est vraiment fascinant à lire. Je le conseille à tout le monde, signé par la Red Team. Ça s'appelle Ces guerres qui nous attendent 2030-2060, publié aux Équateurs. Et puis, on peut aller faire un tour sur le site aussi, redteamdefense.org, parce qu'il y a du graphisme, puisque vous avez des BDistes, des graffeurs, et tout ça, c'est fort passionnant à regarder. Je vous remercie vraiment mille fois, tous les deux. Merci encore.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Kazakhstan, qui sort à peine d'une période de manifestation sévèrement réprimée. Et c'est à l'origine de ce coup de colère loin des grandes villes que je vous emmène dans un tout petit instant. Et puis la troupe habituelle qui voyage avec nous jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons au Japon, secoué par un scandale de travailleurs étrangers maltraités.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Nos âmes d'enfants, signé Mike Mills. Et le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Danemark et l'Autriche annoncent aujourd'hui une levée des restrictions au 1er février. C'est très révélateur. Le raisonnement sur la pandémie est en train de s'inverser totalement en Europe.
Allez, il y a tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il s'offre un détour par la Nouvelle-Zélande avec Aldous Harding, Lone sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Inside, everything I
Le bruit du monde est au Kazakhstan, où il y a 3 semaines, des manifestations historiques ont secoué le pays avant d'être réprimées dans le sang. 225 morts, encore 1 millier de détenus probablement, des cas de torture. On en a parlé évidemment ici même. Les manifestations se sont déroulées principalement à Almaty, la plus grande ville du pays. Mais c'est là où la contestation a commencé, que nous allons dans les champs de gaz et de pétrole du sud-ouest du Kazakhstan, à Janaozen. C'est une ville de 100 000 habitants qui vivent au milieu d'un paysage presque lunaire. Et le reste, c'est Thibault Lefebvre qui raconte.
Il n'y a pas un arbre pour s'abriter du vent violent, froid, qui souffle sur la steppe, une atmosphère de fin du monde, avec des friches industrielles, des entrelacs de pipelines rouillés et des dizaines de stations-service côte à côte à l'entrée de la ville.
C'est une pompe à essence, c'est ici qu'on se sert en gaz.
Du gaz, de pétrole liquéfié, du GPL, un carburant bon marché directement issu des sols de la région et qui permet à la quasi-totalité des habitants de Janaozen, comme Yerkeboulan, de circuler sur des distances souvent très longues.
Tout le monde utilise ça, c'est rentable parce que c'est 3, même 4 fois moins cher que l'essence.
Alors quand au début de l'année, le prix du gaz a soudainement doublé, Yerkeboulan est pour la première fois de sa vie descendu dans la rue pour exprimer sa colère.
Du jour au lendemain, le litre de gaz est monté à 25 centimes d'euros. C'était une mauvaise nouvelle. Avant, on payait un peu plus de 4 euros pour faire le plein. Et au 1er janvier, plus de 8 euros. Alors bien sûr, on a vu la différence et les gens se sont mis à en parler.
Bonjour le Kazakhstan.
Le 1er janvier dernier, c'est une vidéo qui met le feu aux poudres.
On demande la baisse du prix du gaz et qu'il s'adapte au niveau du salaire minimum.
Un groupe d'une 50aine d'hommes se rassemble devant la mairie de Janaozen, enregistre puis poste ce message de revendication. Le lendemain, des milliers d'habitants manifestent sur la place de l'Indépendance avec en première ligne les ouvriers du pétrole comme Nourgaliev Nourlibiek.
Nous avons quitté notre travail et tous les habitants de Janaozen étaient là.
Comme lui, près de 10% de la population active travaille dans la production d'hydrocarbures.
La vie est chère et même si la région est riche en pétrole, le peuple est très pauvre. Il n'y a pas de justice au Kazakhstan. Il faut tous les mettre à la porte. Les députés, le Parlement, tout le monde. Ils sont tous stupides. Tous les gens autour de l'ancien président Nazarbayev sont des criminels. Ce sont des criminels. Je n'ai pas peur de ce pouvoir et s'ils veulent s'en prendre à moi, eh bien qu'ils amènent Nazarbayev avec moi devant le juge. Et quand il sera en prison, là je me calmerai.
Il y a un peu plus de 10 ans, le 16 décembre 2011, le corps de Nourgaliev Nourlibiek a été traversé par une balle de Kalachnikov au niveau du cou et du dos. C'était déjà lors d'un rassemblement réprimé dans le sang après un mouvement social de près de 7 mois. 16 personnes meurent officiellement sous les balles des forces de l'ordre. Mais selon les manifestants comme Mouradbay Joumagaliev, lui aussi ouvrier dans le pétrole, le bilan est bien plus lourd.
Des amis à moi sont morts, mais je suis resté là. Je n'avais pas peur. Les secours ne sont jamais arrivés et je ne pouvais pas les abandonner.
Ce jour-là, le Kazakhstan célébrait les 20 ans de son indépendance.
Les médias ont communiqué sur un bilan de 16 morts, mais il y en a eu beaucoup plus. J'ai vu une petite fille de 5 ans morte, une personne âgée aussi. Pendant plus d'une demi-heure, peut-être une heure, des policiers ont tiré avec des mitraillettes et des pistolets. Ils ont tué des manifestants pacifiques.
La manière forte donc pour étouffer des mouvements sociaux qui menacent directement les intérêts économiques de l'État et donc des clans au pouvoir. Car depuis les années 50, près de 10% du pétrole kazakhstanais est sorti des sols de la région de Janaozen, avec à la clé des revenus conséquents qui, selon Shalkar Nursaitov, un des rares chercheurs en sciences politiques indépendants, n'ont pas permis d'améliorer le quotidien des habitants.
Janaozen est une ville unique, où la plupart des ouvriers travaillent pour des compagnies pétrolières. Et leurs conditions de vie sont très dures. Voilà ce qu'ils disent. Nous fournissons du pétrole et de l'argent pour la capitale du pays, l'ancienne Astana. Et nous méritons de vivre dans de meilleures conditions. Au Kazakhstan, seulement 165 personnes possèdent 55% de la richesse nationale. Et les gens ont juste dit « trop, c'est trop, c'est le moment de changer ». ».
Le président Kassym Tomar Tokayev a très vite pris conscience des risques insurrectionnels. C'est pour cette raison que seulement deux jours après la manifestation de Jana Ozen, il a annulé l'augmentation du prix du gaz, une mesure suffisante pour calmer temporairement la colère dans la région, mais trop tardive pour éviter un embrasement du pays.
Thibault Lefebvre pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes sur un chantier de BTP au Japon, où des travailleurs étrangers sont souvent maltraités.
Oui, c'est une vidéo virale au Japon qui vient de remettre ce sujet très sensible sur la table, le calvaire enduré par ceux qu'on appelle les stagiaires étrangers. On est là dans le camion d'une équipe de bataille de travailleurs du BTP. Un des salariés filme leur stagiaire, un Vietnamien d'une quarantaine d'années, frappé au ventre par le conducteur à plusieurs reprises. Deuxième séquence, le même homme battu cette fois à coups de bâton sur tout le corps. Bilan, des dents arrachées, une lèvre lacérée et une côte cassée. Cette vidéo a été révélée il y a quelques jours par un syndicat de travailleurs et provoque depuis un vrai scandale au Japon. Une enquête de police et des services d'immigration a été diligentée hier par le gouvernement. Ce que montre cette vidéo est sans doute l'un des exemples les plus extrêmes d'un phénomène qui n'est pas nouveau au Japon. L'exploitation des travailleurs étrangers dans le cadre d'un programme mis en place par le pays il y a près de 30 ans, le programme dit des stagiaires étrangers. Son but est officiellement de permettre aux travailleurs de pays en voie de développement comme le Vietnam d'acquérir des compétences techniques dans l'agriculture, la construction, l'industrie alimentaire. Mais les apprentis se retrouvent régulièrement brutalisés, utilisés comme une source de main-d'œuvre bon marché. Le département d'État américain mis en garde contre les risques de travail forcé. 350 000 stagiaires techniques étrangers se trouvaient au Japon à la fin de l'année dernière.
La Colombie vient de mettre la main sur un trafiquant de drogue très recherché.
Son nom ne vous dit rien, mais son mode opératoire lui faisait florès depuis des années. Il s'appelle Oscar Moreno Ricardo. Il est surnommé dans le milieu le roi des submersibles. Autrement dit, c'est à lui que l'on doit cette évolution décisive dans le trafic de drogue consistant à utiliser des sous-marins pour sortir la cocaïne de Colombie en toute discrétion. Oscar Moreno Ricardo, lui, a finalement été arrêté au début du mois à Medellín par la police colombienne.
Alias Cachano ou El Viejo.
Ce policier colombien raconte l'itinéraire de ce trafiquant hors norme. Moreno Ricardo a commencé sa carrière maritime en tant que conducteur de hors-bord et c'est il y avait environ 5 ans qu'il s'est tourné vers la construction de submersibles improvisés pour ses clients criminels. Une technique déjà éprouvée depuis 30 ans en Colombie, mais lui était si doué qu'il est devenu connu sous le nom du roi donc des submersibles. Ses constructions étaient énormes, près de 15 mètres de long, la taille d'un yacht, avec la capacité de transporter jusqu'à 5 tonnes de cocaïne à la fois. Le roi a donc été coulé, mais son industrie, elle va continuer à naviguer. Les autorités colombiennes ont saisi 31 sous-marins narcotiques en 2021.
Et on termine avec un film culte, enfin disponible en Chine, mais dans une version expurgée.
Ouais, j'ai nommé Fight Club, le film culte de David Fincher qui débarque 23 ans après sa sortie sur Tencent Video, une plateforme numérique chinoise. First rule of Fight Club is... Là, c'est la bande-annonce du film original, à première vue plutôt une bonne nouvelle donc pour les Chinois, sauf que la censure du régime communiste est passée par là avec un sacré coup de ciseau à la clé, disparu les dernières images du film et son explosion d'immeubles spectaculaires, symbole de la destruction du monde moderne. Pas question de laisser passer ce message de fin trop anarchiste et anticapitaliste. À la place, la Chine a préféré un happy end. Les images de fin du monde sont donc remplacées par un écran noir et un texte disant, je cite, « La police a bien déjoué le projet et arrêté tous les criminels, empêchant l'explosion des bombes. » Quant au personnage de Brad Pitt, il est précisé qu'il a été interné dans un asile de fous. Bref, une fin tronquée, déjà moquée, on l'imagine bien sur les réseaux, où circule bien sûr sous le manteau la version originale bien moins conformiste.
Sébastien Logeni, merci beaucoup. À demain, évidemment, vous partez avec Buddy Guy et Eric Clapton, 161 ans à eux deux quand même. Et juste après, on reparle cinéma, mais sans coupure cette fois.
Well, I'm a crawling cane snake, and I'll rule my den. Well, I'm a crawling cane snake.
king snake, and I rule my den. I don't want you hanging around my maid, I'm just trying to keep her in. Well, you caught me crawling now, baby, when the grass was very high. I'm gonna keep on crawling, girl, until the day I die. Because I'm a crawling cane snake, and I'll rule my den. Yeah. Come on and give me what I want, baby, and I'll come crawling again.
Avec Eric Clapton, Crawling Kingsnake sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
When you think about the future, how do you imagine it'll be?
I imagine and hope it'll be good.
Certains d'entre eux que vous allez entendre, que vous entendrez, ont à peine 10 ans, déjà un avis très arrêté sur la politique, sur l'environnement, sur les grands sujets de société. On prend le pouls de la jeunesse américaine dans le cinéma en VO ce mercredi avec le tout nouveau film du réalisateur Mike Mills, Nos âmes d'enfants. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour Fabienne.
Ce qui vous a marqué dans ce film, Corinne, c'est sa forme hybride entre la fable et le documentaire.
Voilà, comme dans ses clips pour Moby ou Yoko Ono, Mike Mills, dans ce nouveau film, casse les codes avec un objet à la fois très arty, dans un noir et blanc magnifique, et en même temps stupéfiant de naturel, tourné à certains moments à la manière quasiment d'un documentaire. C'est l'histoire d'un homme, Joaquin Phoenix, son vieux loup solitaire, qui va devoir apprendre à s'occuper d'un enfant tout en menant une sorte d'enquête sociologique façon Edgar Morin, Jean Rouch, sur la jeunesse non pas des années 60 comme dans leur chronique d'été, mais celle de 2019 en Amérique, toujours sur le même thème. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment voyez-vous l'avenir?
When you think about the future, how do you imagine it'll be?
Je ne les ai pas vus au départ comme une référence pour mon film, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec leur documentaire. C'était novateur et surprenant pour l'époque. Donner comme ça la parole à des gens qui n'étaient spécialistes de rien, des gens qui ne représentaient qu'eux-mêmes, qui n'avaient pas de rôle particulier, c'était brillant. C'est un peu ce que j'ai voulu faire ici, mais avec des enfants. C'est assez rare qu'on interroge les 9-12 ans sur leur vision de la vie ou du futur. Ça sonne, c'est vrai, comme du documentaire. Ils n'étaient pas dirigés, ils répondaient ce qu'ils voulaient. On tournait dans la rue ou chez des amis, sans rien changer de leurs propos. C'est vrai que le noir et blanc, c'est un vrai choix d'auteur. J'assume le côté arty pour un film en forme de fable.
What will stay with you? And what will you forget?
Voilà, sauf que là c'est Joaquin Phoenix, donc en reporter radio dans le film, qui pose les questions aux jeunes Américains, âgés donc de 9 à 12 ans.
Voilà, on voyage avec lui et son petit-neveu dans toute l'Amérique. Le film est conçu comme un road movie qui va nous emmener à New York, à Détroit, à la Nouvelle-Orléans, à Los Angeles, pour les besoins de reporter de Joaquin Phoenix. Toutes les interviews d'enfants qu'il réalise ont été menées en parallèle du tournage, intégrées au récit, ce qui donne un résultat assez étonnant, presque en deuxième film dans le film, inspiré aussi du quotidien de Mike Mills.
J'ai moi-même un fils de 9 ans et je trouve qu'à cet âge, ils sont drôlement intelligents. Avec de vraies réflexions déjà sur des sujets comme le racisme, l'oppression, les inégalités, la justice sociale, bien plus en tout cas que je ne l'étais à leur âge. Dans leurs réponses, ils ont surtout mis l'accent sur les injustices et le climat. J'ai été très impressionné et ils ont même réussi à me remonter le moral, moi qui ne vois dans l'Amérique d'aujourd'hui qu'une source de déprime, d'inquiétude autour de guerres civiles, de dérives autoritaires. Ces enfants, avec leur énergie, ont vraiment su me redonner de l'espoir.
To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body, to move your arms and legs. You will learn to walk and run.
Voilà, c'est un film très délicat qui se regarde en prenant son temps, un peu bavard parfois, mais Joaquin Phoenix, comme toujours, est formidable et le jeune garçon qui lui donne la réplique, Woody Norman, va vous bluffer. Il a 9 ans et déjà une palette d'émotions assez incroyable.
Voilà, les 9 ans sont très intelligents, on l'a appris, c'est vrai, le film s'appelle Nos âmes d'enfants, Common en VO, curieusement, mais bon, au cinéma ce mercredi. En tout cas, merci Corinne Pellissier.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Et le monde d'après, c'est Jean Marfour. Jean-Marc, deux pays européens avancent à leur tour vers une levée des restrictions face à la pandémie. Le Danemark et l'Autriche l'ont annoncé ce matin. Et pour vous, c'est très révélateur. La façon de regarder et de combattre la maladie est en train de se transformer complètement en Europe. Et c'est votre monde d'après.
Oui, en quelques semaines, la question centrale a en fait radicalement changé. C'est spectaculaire. Fin décembre, souvenez-vous, le sujet de discussion principal en Europe, c'était l'obligation vaccinale et son imposition en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en France avec le pass vaccinal. Un mois plus tard, renversement de perspective, place à la levée des restrictions. Il y a 2 semaines, Israël et l'Espagne ont été les premiers pays à évoquer cette reconfiguration. Vivre avec le virus, cesser de tout restreindre. Londres a embrayé la semaine dernière, mais pour une mauvaise raison, le calcul politicien d'un Boris Johnson empêtré dans les scandales. L'arbitrage rendu public aujourd'hui par le Danemark et l'Autriche est autrement plus révélateur. Précisément parce que ces pays ont été, eux, parmi les plus stricts dans leur plan de restriction. Au 1er février, ça sera donc fini du confinement des non-vaccinés en Autriche, fini du port du masque ou de la fermeture des bars au Danemark. Le ministre danois de la Santé estime, je cite, que le Covid n'est plus une maladie menaçante pour la société. Alors même que le Danemark connaît toujours des chiffres de contamination vertigineux tout à fait comparables à ceux de la France quand on les rapporte à la population. De son côté, l'Espagne ajoute qu'elle va bientôt cesser le décompte quotidien des cas positifs ou des hospitalisations. Donc un tournant politique est en cours, en Europe occidentale en tout cas. Un changement complet de regard. La priorité cesse d'être la vaccination pour devenir la levée des restrictions.
Et Jean-Marc, l'explication alors c'est quoi selon vous? C'est pas que sanitaire évidemment.
Il y a des raisons sanitaires. Hein. Un taux de vaccination élevé, 87% en Espagne, 84% au Danemark. La France est pas très loin derrière, 80-81%. Et une immunité croissante avec un variant Omicron peu virulent, donc le risque diminue. Hormis pour les non-vaccinés, mais ça, d'une certaine manière, c'est leur problème. Et puis, les chiffres n'ont progressivement plus de sens. Le nombre d'entrées en soins critiques se décorrèle du nombre de cas positifs et une proportion croissante de malades positifs au Covid ne sont plus hospitalisés, suivez-moi bien, à cause du Covid, mais à cause d'autres maladies, donc il faudrait les sortir des chiffres de la pandémie. Ça, c'est pour le sanitaire. Mais il y a d'autres raisons à ces arbitrages. L'obligation vaccinale, on l'a vu, crée des tensions, voire des manifestations d'opposition violentes aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche. Plus largement, la persistance des restrictions finit par démoraliser les populations. Il y a une enquête passionnante qui vient de paraître sur le sujet en Allemagne. Les trois quarts des Allemands se disent mentalement affectés par ces restrictions. Près d'un tiers comprend les mouvements de protestation. C'est d'ailleurs ce qui rend improbable l'adoption d'une obligation vaccinale en Allemagne, même si le sujet est au menu du Bundestag depuis aujourd'hui. Autrement dit, l'impact des restrictions de liberté sur le tissu social devient trop lourd quand on le compare aux bénéfices sanitaires stricto sensu. Donc l'arbitrage politique s'inverse.
Mais enfin, c'est quand même un peu risqué, non? La pandémie est toujours là.
Oui, c'est évident. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs médecins épidémiologistes jugent ces levées de restrictions infection prématurée. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant plus dangereux. Et puis les personnels de santé peuvent témoigner que les systèmes de santé demeurent sous tension. On n'est pas sorti d'affaire. Mais répétons-le, c'est d'abord un arbitrage politique. Et les autorités danoises l'assument très bien. Le corps social ne peut pas rester en état de stress permanent, avec en plus un coût économique élevé pour le secteur des transports, par exemple, et un impact fort sur les services publics en raison des règles de confinement. Il n'y a qu'à regarder les fermetures de classes. Et puis, il y a la question en soi des libertés publiques. On a bien vu depuis 2 ans à quel point les régimes autoritaires n'ont pas raté l'occasion d'utiliser le prétexte de la pandémie pour mieux contrôler et surveiller leur population. Restreindre les libertés est un acte beaucoup plus facile que de les rétablir une fois qu'elles sont limitées. Et c'est précisément la grandeur, la marque de fabrique des démocraties que de restaurer les libertés dès que c'est possible. C'est même un vrai test démocratique. C'est précisément ce que nous disent aujourd'hui le Danemark, l'Espagne ou l'Autriche.
Le Monde d'après de Jean-Marc Four, merci beaucoup. Jean-Marc, évidemment, à demain pour nous. Dans un instant, c'est le 18-20, la suite avec le journal d'Hélène Philly d'abord. Et puis, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien. À tout de suite.